Europe 1. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Samuel sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Samuel.
Bonsoir, bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Samuel ?
Alors, je vous appelle de la région Montpellier-Rennes et j'ai 27 ans.
D'accord. Alors, vous avez écrit un livre, Père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie, aux éditions Hachette Pratique. La promesse de ce bouquin, c'est quoi en fait ? La parentalité positive, qu'est-ce que c'est que la parentalité positive ?
Alors déjà, je sais pas s'il y a vraiment une promesse dans ce bouquin. La promesse que je m'étais faite, c'était de réussir à le finir. C'est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal. Ouais.
Ouais. Alors après, dans ce terme de parentalité positive, en fait, j'y ai mis ce que moi je y ai trouvé, en fait, plutôt, parce qu'on a des termes, enfin milliers de termes pour définir en fait ce que représente cette approche, en fait, juste qui est pour moi du respect de l'enfant et de son rythme, et à la fois de la cohabitation des besoins de chaque personne dans le foyer. C'est un peu ça que je raconte dans le livre, en fait, comment j'ai essayé de faire cohabiter un peu les besoins de tout le monde, sans violence, dans notre foyer, avec l'arrivée de mon fils, puisque je suis devenu papa un peu tôt, et j'ai un peu changé de vie, ce que je raconte dans le bouquin. Et donc, pour réussir à faire que tout se passe bien, j'ai adopté cette posture-là, en fait, juste de respect de tout le monde et de chacun, dans la non-violence, et ça s'est hyper bien passé, et donc j'avais envie de le raconter dans un bouquin. Et si c'est peut-être ça la promesse, en fait, de juste pouvoir dire aux gens, ça existe, c'est possible, et montrer ce chemin-là, quoi.
Mmh. Alors, sur les réseaux sociaux, vous êtes très suivi, puisque vous avez presque 200 000 abonnés. On vous retrouve sur @SamuelCit, C-I-T au bout, hein, SamuelCit.
C'est L-T.
C'est LT, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Et puis pour info, la mère de votre fils est Léa, célèbre créatrice de contenu et entrepreneuse qui s'est fait connaître par sa chaîne YouTube, je ne suis pas jolie. Vous me pardonnerez, je ne connais pas Léa non plus, mais bon, visiblement, vous êtes deux...
pas forcément le cœur de cible.
Je me doute bien. Avec ce que je mets aux réseaux sociaux chaque soir, pratiquement, je pense que je ne suis pas obligatoirement le cœur de cible, comme vous dites. Vous avez renoncé à vos études de médecin pour être père au foyer, Samuel.
Oui. Oui, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est vraiment ce choix, en fait, quand je suis devenu père, de me dire vraiment, fais ce qui te rend heureux, parce que là, je voyais bien que ça me plaisait pas, les études de médecine. J'ai réussi le concours, mais après, dès que j'ai mis le pied à l'hôpital, j'ai compris que c'était pas pour moi. Et je pense que ça fait partie des professions qui doivent rester des vocations avant tout.
Oui.
Et donc, pour moi, c'était pas possible de continuer là-dedans. J'aurais pas été heureux, puis j'aurais pas été un bon soignant, je pense, tout simplement. Que j'admire d'ailleurs au passage. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter et je me suis dit, ok, t'arrêtes, t'as ton fils qui est là, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu reprends des études ? Tu fais autre chose ? Et l'idée, ça a été de me dire, grâce au travail de mon épouse, qui est quelqu'un qui a entrepris très tôt, qui a directement après le bac monté son entreprise, fait plein de projets et qui a fait qu'on avait le confort de pouvoir fonctionner comme ça, j'ai dit, moi, je vais rester à la maison. On va pas payer quelqu'un pour garder notre enfant, on va pas le mettre en structure, on va juste, en fait, je vais m'en occuper, je vais être père au foyer. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi, tout simplement.
D'accord. Donc, vous avez renoncé à un métier assez prestigieux. C'est comme ça que le médecin est présenté. Vous vouliez être... vous avez renoncé dès le début ou vous avez fait quelques années à la fac quand même ?
Non, j'ai arrêté en troisième année.
Ah ouais, d'accord.
Okay. Ouais, au final, en tout, j'ai passé 5 ans à la fac de médecine de Montpellier, que j'embrasse d'ailleurs.
D'accord.
Mais j'ai passé 2 ans pour faire le concours, une fois la deuxième année, une fois la troisième année. Puis quand j'ai eu mon fils, je me suis réinscrit en troisième année, je l'ai retapé, mais en fait, j'ai abandonné direct parce que je voyais bien que ça allait pas. Je travaillais pas assez, j'étais pas assez motivé, j'étais pas assez intéressé. À un moment, il fallait se rendre à l'évidence.
D'accord. Vous vous êtes marié très tôt. En fait, je suis toujours assez intrigué par aujourd'hui hein, les jeunes qui se marient tôt. Vous deviez être fou transi de votre Léa pour vous marier aussitôt.
Ah toujours hein, mais de toute façon, on a toujours eu un parcours un peu atypique. On s'est rencontrés en fait en seconde à 15 ans et on s'est jamais quitté depuis. On est nos premiers amours respectifs, on s'est marié en fait après 5 ans de vie quasi commune, puisque dès les années lycée, on vivait l'un chez l'autre tout le temps. Et ensuite, on a emménagé ensemble dès la fin du lycée. Donc, le mariage à 20 ans, il équivaut à un mariage classique, en fait, pour nous, dans la vie de couple qu'on a passé ensemble. Puis après, oui, c'est atypique maintenant. Mais enfin, je veux dire, il suffit de prendre quelques décennies en arrière. Puis 20 ans, c'était pas si jeune que ça.
Bah, 20 ans, c'est très jeune quand même. Mais bon, c'est un sacré choix, en fait, de se marier à 20 ans. En même temps, il y a quelque chose de très beau, de très insouciant, et de très beau comme l'amour peut l'être. Vous avez du mal à trouver du sens à vos études qui vous rendaient malheureux. En quoi ça vous rendait malheureux, ces études ?
Ces études, elles me rendaient malheureux parce que tout simplement, en fait, j'étais pas à ma place dedans. Comme je disais, je pense que ça devrait vraiment être un travail de vocation, la médecine, et particulièrement toutes les professions dans le soin. Mais en plus de ça, je suis pas hyper à l'aise avec la façon dont on apprend la médecine à l'heure actuelle, ou en tout cas moi à l'époque où je l'ai apprise, donc il y a 7-8 ans, je suis pas à l'aise avec la façon dont on apprenait. J'étais pas à l'aise avec la hiérarchie, j'étais pas à l'aise avec l'espèce d'ambiance un peu particulière qu'il y a dans les études de médecine, il faut le reconnaître aussi, hein. Pour les étudiants, c'est pas forcément où trouver notre place quand on n'a pas envie d'aller picoler tous les soirs jusqu'à 3h du matin et ensuite de se faire parler comme à des animaux par des chefs de service un peu imbus de leur personne. C'est compliqué quand même, hein, ces études-là. Il y a quand même une ambiance assez particulière où on nous dit, en fait, il faut subir pour pouvoir t'endurcir et ensuite... Bah, soit tu feras ta vie de ton côté, soit tu feras subir au futur médecin. Donc non, moi, ce cercle-là me plaisait pas. J'étais pas du tout à mon aise dedans et j'ai dit c'est pas pour moi, quoi.
D'accord. Donc vous avez arrêté tout d'un seul coup, du jour au lendemain?
Bah, en fait, ce qui s'est passé, ça s'est fait par plusieurs petites étapes de micro choix. Donc déjà quand j'ai eu mon fils. Je suis allé voir pendant la grossesse de mon épouse ma scolarité pour leur dire, ben voilà, moi j'étais en troisième année à l'époque, je leur dis, ben voilà, je vais être papa, je voudrais savoir ce qu'il était possible de faire en termes de congé, quoi, parce que j'avais quand même la moitié de la journée à la fac, puis l'autre moitié à l'hôpital en tant qu'externe, donc stagiaire à l'hôpital, quoi. Je voulais savoir comment on pouvait faire pour un congé paternité, quoi, un congé une, deux semaines, voilà, je demandais pas grand chose, puis on m'a dit, ben non, il n'y a rien de prévu. Les étudiants, vous n'avez pas le droit à des congés, alors il n'y a rien de prévu pour vous. Hein. Donc, du coup, je suis retourné en disant, alors je vais vous prévenir, je ne serai pas là de tel jour à tel jour, débrouillez-vous. Parce que, voilà, c'est le genre de choses qu'on n'imagine pas, c'est sûr, hein, je comprends, ça doit être assez rare, mais je pense que c'est important aussi de discuter bien-être étudiant et de pouvoir, dans des grandes universités prestigieuses comme les celles de médecine de Montpellier, discuter du fait que... Bah, des étudiantes et des étudiants peuvent avoir des parcours de vie un peu plus particuliers et qu'il faut prendre en compte ça aussi. Et donc ça a été une des premières étapes qui a fait que je me suis dit non, ça va pas être pour moi, cette institution elle est pas faite pour accueillir mon parcours de vie et donc je préfère pas lutter et puis faire mon chemin de mon côté, quoi.
D'accord. Au moment où vous arrêtez vos études, votre femme est enceinte ou le bébé...
Au moment où je suis parti de la fac, dernier jour de stage, il avait 5 mois quand même, mon fils.
5 mois, d'accord.
Donc en fait, pendant ces 5 premiers mois, je faisais un peu des deux, mais mal des deux aussi, quoi. Je veux dire, j'étais ni satisfait de ma présence à la maison et avec mon fils et avec mon épouse... qui traversait les difficultés qu'on connaît du postpartum, hein, et j'étais pas satisfait non plus de mon implication en stage et de la qualité de mon travail universitaire. Donc le choix m'a permis de trouver une solution à cette insatisfaction.
D'accord. En fait, vous dites que la vocation de cette parentalité, elle vous est venue au moment où vous avez eu une sorte de révélation quand la question du mode de garde a été posée.
Ouais, tout à fait. Bah en fait, c'est ça, c'est que ça faisait donc plusieurs mois que moi je faisais mes allers-retours. Mon épouse, elle avait réussi à prendre plusieurs mois un peu off de ses entreprises et tout pour pouvoir se concentrer sur être présente pour notre fils. Mais donc au bout d'un moment, on s'est dit bah qu'est-ce qu'on fait, quoi, parce que là, va falloir que Léa, ma femme, retourne au travail. Moi, j'ai la fac, les stages, les trucs, donc je peux pas être présent. Donc faut qu'on trouve quelqu'un, assistante maternelle, la crèche, enfin voilà, comme tout parent en fait, on s'est posé les questions que je crois la majorité des parents sont posés, qu'est-ce qu'on fait de notre enfant, quoi, maintenant qu'on doit retourner au travail, puisque notre pays est si peu enclin à évoluer sur le sujet des congés parentaux et maternité et paternité, on était bien obligés. Donc, c'est de cette difficulté de trouver des solutions, en fait, où l'idée m'est venue de me dire, mais attends, mais ce serait beaucoup plus simple si moi, je m'en occupais. Puisque de toute façon, la fac me plaît pas et que j'en peux plus et que je suis en plein burn-out étudiant presque, ce serait beaucoup plus simple. Moi, j'arrête de faire ce qui me plaît pas. Je me mets à faire un truc qui me plaît et en plus, on n'a plus besoin de se prendre la tête sur un système de garde. Donc, c'était un peu du win-win, quoi. Mm-hmm. Et on en a discuté avec mon épouse et on est tombé d'accord sur le fait que c'était le meilleur moyen de faire. Et puis, on s'est toujours dit, comme dans tout dans la vie, mais particulièrement pour cette situation, on s'est dit, bah, tant que ça marche, on continue. Et bah ça a marché 3 ans et demi puisque après mon fils est rentré à l'école, donc c'est que ça a plutôt bien marché.
Oui. En fait, ces études ne vous convenaient pas, hein. Même si vous dites que vous avez toujours eu une facilité à l'école, vous avez un peu choisi la médecine un peu comme ça, voyez un petit peu par-dessus le bras.
Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, c'était un peu un choix par défaut. Parce que le système scolaire, il est pas forcément fait pour ouvrir des portes un peu inattendues. Donc moi, j'ai toujours été bon en maths, j'ai toujours été bon en sciences, j'ai toujours été bon dans des trucs scientifiques. Quand je suis arrivé au lycée, j'avais pas trop d'idées de tout ce que je voulais faire, hein, honnêtement. J'étais sportif, j'aimais bien la musique, je faisais de la musique, je faisais plein d'autres choses. Oui. On m'a dit, t'es bon en sciences, tu vas faire ingénieur ou médecine, quoi. Te prends pas la tête. C'est un peu toujours les débouchés qu'on nous propose. Donc moi, j'aimais bien Grey's Anatomy, j'ai dit vas-y, va pour médecine, hein. Mais c'était sans conviction, quoi. Donc après, je me plaisais à l'idée que j'allais prendre soin des autres, c'est toujours quelque chose que j'aime faire, mais je pense que c'est pas par ce biais-là que moi j'avais un avenir, quoi. C'était pas ce biais-là, mais c'est comme ça, on fait des erreurs dans la vie, puis on apprend, hein. Puis je pense qu'un jour on arrivera peut-être à justement garder les portes ouvertes pour tous les enfants, puis les jeunes adolescents qui sont complètement paumés, parce qu'à 17, 18 ans, c'est quand même très rare d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire plus tard et qui, en fait, connaît vraiment le milieu dans lequel il veut être plus tard et est capable de faire ce choix de façon éclairée, quoi. Mmh. C'est quand même compliqué.
Vous, en fait, ça a été un choix que vous n'avez, sur lequel vous n'avez pas du tout hésité, au final.
De faire médecine ou d'arrêter médecine?
Non, d'arrêter médecine et pour être
non, j'ai pas du tout,
père.
J'ai pas du tout hésité. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me l'admettre et pour me regarder en face et me dire ok, tu t'es planté, t'es malheureux et il faut que tu fasses quelque chose. Ça prend du temps. On sait très bien que, en plus, en tant qu'homme, la santé mentale des hommes, c'est quand même un sujet un peu tabou. Donc, c'est difficile de dire, là, t'es dans un truc très déprimé et ça va pas. Mais une fois qu'on se l'est dit, d'appeler la fac et de dire, je m'en vais, au revoir, eux, ça leur a fait ni chaud ni froid, puis moi non plus. Hein,
oui, ça, je me doute, ouais. Père au foyer, avec l'accord de votre compagne, bien évidemment, une décision pleinement assumée, a suscité de nombreux commentaires désagréables, visiblement.
Oui, bien sûr. En fait, c'est le lot de toute personne qui est un minimum exposée dans la vie médiatique, puis sur les réseaux sociaux particulièrement. Oui. Hein, c'est toujours compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça super, qui trouvent ça courageux, qui trouvent ça... Voilà. Puis on est toujours un peu même amusé de voir autant de réactions positives. Parce que moi, c'est un choix personnel. J'en ai parlé parce que c'était logique que j'en parle puisque je raconte mon quotidien. Donc, c'était logique que je parle de ça. Mais après, c'est toujours amusant de voir à quel point on trouve ça dithyrambique quand c'est un homme qui devient père au foyer, mais personne n'a jamais fait d'article sur une femme qui devenait mère au foyer, comme si c'était normal pour elle et un exploit pour nous. Il y a encore un double standard là qui est assez intéressant. Mais après, par contre, effectivement, il y a eu plein de remarques négatives et violentes quand j'ai parlé de ça, parce que on est encore dans une société en France, je pense, où on a beaucoup de mal à accepter qu'un homme prenne une place dans le soin de l'enfant, au foyer, dans le soin de sa maison, dans la prise en charge d'une charge mentale qu'on a toujours estimée dans nos dogmes un peu patriarcaux être la responsabilité des femmes. Donc ça gêne encore un petit peu. Et puis forcément, les réseaux, l'anonymat font que c'est beaucoup plus compliqué de traverser tout ça, de prendre position sans être insulté quotidiennement. Mais bon, on s'y fait après.
Ça, c'est quelque chose que vous acceptez, hein, l'un comme l'autre
Non, je l'accepte pas, mais je le tolère, on va dire.
D'accord, ok.
si vous voulez, enfin, quand ça va trop loin, ça va trop loin. On prend des mesures pour, hein, on le fait régulièrement. C'est comme toute personne sur les réseaux qui vit ça. Voilà, y a des moments où on peut pas accepter certains propos. Mais après, les petites remarques quotidiennes et les gens anonymes qui s'amusent un petit peu à s'inventer des positions, c'est leur problème. Moi, j'ai souvent beaucoup de peine pour ces gens qui passent des heures sur des réseaux qui ne leur plaisent manifestement pas, quoi. Donc,
je pense que ça leur plaît, mais vous savez que ce qui leur plaît, en fait, c'est justement de balancer les saloperies. Je pense
qu'il y a
un maximum de personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour ça, quoi.
Quelle tristesse de vie, quoi.
Ouais.
Quelle tristesse de vie, parce que moi, comme je dis souvent, ça m'arrive sur les réseaux de tomber sur des contenus, parce que maintenant, avec les fils d'actualité, les algorithmes, on n'a pas la main sur tout ce qu'on nous propose. Moi, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas sur un réseau social, je passe mon doigt
et
je mets autre chose. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit de cliquer sur commentaire, de prendre le temps d'écrire un commentaire en disant ça ne me plaît pas. Et encore moins de le faire avec virulence ou vulgarité. Donc je me dis, quand on en arrive là dans sa vie, c'est que on a sûrement beaucoup de problèmes auxquels on doit s'évader, desquels on doit s'évader. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là et je les plains beaucoup. Après,
vous êtes très gentil, je trouve.
quelques années, ça fait le cuir.
mais vous êtes très gentil parce que je suppose qu'il y a des réflexions qui n'étaient pas du tout agréables pour vous, hein.
Non, mais bien sûr, après, toute mesure gardée, hein, quand c'est des grosses insultes, quand on insulte mon épouse, mon fils, j'ai aucune gentillesse et aucune tendresse pour ces gens-là. Hein, évidemment, on m'a tout dit, hein, je veux dire, des choses qui sont plein que j'ai pas envie de répéter, parce que ce serait bête, mais voilà, on a remis en question ma masculinité, ma virilité, ma sexualité, tout, quoi. Enfin, je veux dire, il y a aucune digue qui n'a pas sauté sur le point de vue des insultes. Donc après, au bout d'un moment, on s'y fait. Hein.
D'accord. Bon, c'est bien. Vous êtes très philosophe, finalement, puisque quand on s'expose comme ça, vous avez raison de dire qu'on accepte. J'en profite de parler avec vous, et sachant que Léa, votre femme, est aussi une youtubeuse et une créatrice de contenu célèbre. Y a beaucoup de. Je viens de terminer un film sur justement les dangers des réseaux sociaux et des dégâts que font les réseaux sociaux. Je me suis souvent confronté à une parole qui était l'anonymat, c'est la liberté d'expression. Les jeunes évoquent et brandissent la liberté d'expression dès que on parle de l'anonymat. Vous avez déjà eu ce genre de débat, vous, entre vous et Léa ?
Moi, personnellement, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression, et je sais que mon épouse aussi.
Mais qu'en pensez-vous, en fait ? Est-ce que la liberté d'expression, justement, à cause de l'anonymat, c'est ce que moi je défends, elle est en danger, en fait ?
En fait, ce qui est en danger à cause de l'anonymat, c'est pas tant la liberté d'expression, c'est la vie en société en général. En tout cas, la vie en société digitale, puisqu'aujourd'hui on peut parler de ça. C'est ça qui est en danger, c'est les rapports aux autres directement. C'est les insultes sexistes, les insultes homophobes, les insultes racistes. Ça, l'anonymat le permet. Et c'est ça le danger aujourd'hui. C'est le danger, c'est que l'anonymat accroît le risque qu'on vive dans une société où des jeunes collégiennes se font du mal, des jeunes collégiens se font du mal parce qu'ils sont insultés de façon anonyme sur les réseaux. Ça, c'est le vrai danger. Que moi, on me dise que je suis pas un vrai mec parce que je vais pas taffer, c'est un problème très léger par rapport à ce que la réalité de la violence des propos sur les réseaux sociaux et du harcèlement en ligne. Parce que le vrai cœur du sujet de l'anonymat, c'est le harcèlement en ligne, c'est le cyberharcèlement et c'est les dégâts qu'il cause dans le monde réel. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet, effectivement. Après, que du coup, cette ambiance-là parce que la liberté d'expression, la question se pose de comment on se permet de s'exprimer publiquement sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a jamais envie de se faire insulter pendant 3 mois par des masculinistes parce qu'on a parlé de sa vasectomie, par exemple. Mais c'est clair que c'est un vrai sujet. Après, moi, je pense que l'anonymat, c'est surtout le terreau du harcèlement sexiste, homophobe et raciste avant d'être une menace pour la liberté d'expression.
Oui, vous avez totalement raison. Mais vous gagnez votre vie avec ça, tous les deux, en fait, du coup ?
Alors, on vit grâce au travail de mon épouse, surtout. Moi, je gagne un petit peu d'argent avec ça, oui, mais pas autant que mon épouse.
Alors, revenons-en à la parentalité positive. C'était un petit aparté. Vous voyez, en fait, de toute façon, ces réseaux sociaux, je le vois là, parce que ma maman vient de m'envoyer un extrait de notre Facebook où voilà, il y a quelqu'un qui raconte des choses sur moi qui sont pas gentilles du tout c'est ça en fait que je trouve très dangereux. Oh non, vous inquiétez pas, je m'en fous comme de l'an 40 moi, mais
ouais, ça va, alors.
Je vraiment ça ne m'a jamais touché et je regarde très peu en fait ma mère bon bah, est un peu plus attentive.
C'est les mamans, ça,
et les mamans elles font attention. Les mamans elles font très attention, donc elles ont raison, mais vous voyez, il y a une personne là qui avance des trucs sur moi qui sont complètement incroyables. Et donc du coup, ces réseaux sociaux, c'est ce pourquoi je trouve que c'est très dangereux, parce que comme on est dans un pays où il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, à partir du moment où on balance comme ça des mensonges. Le mal est fait, voyez-vous. C'est difficile de se défendre. Donc quelque part, en fait, vous faites un métier dangereux, mon ami.
Ouais, enfin dangereux.
Non, mais dangereux si bientôt on se laisse gagner par ça.
Ouais. Voilà.
Alors revenons-en à votre parentalité positive. Vous avez connu des regards très interrogateurs de certains étonnés que cette vie vous plaise. Pourquoi en fait les gens étaient si étonnés de vous voir faire ce choix ?
Il y a plusieurs raisons. Je pense déjà le fait que je sois un homme, ça interroge encore beaucoup de gens. Donc quand je raconte que mon quotidien c'est de me lever, de préparer le petit déjeuner de mon fils, de lui préparer son repas pour l'école, de l'amener à l'école, de le ramener, de passer un petit temps en famille quand mon épouse rentre du travail, de le coucher. Enfin voilà, c'est des rôles qu'on a très très longtemps assimilés aux femmes.
Oui, complètement.
Et donc ça interroge beaucoup. Et puis après le choix de pratiquer une parentalité, en tout cas, qui est différente de la parentalité qui est globalement celle qui est encore considérée comme classique et traditionnelle en France, et de bannir toute forme de violence, par exemple, c'est un choix qui interroge encore beaucoup, malheureusement, dans notre pays, en tout cas.
Oui.
Ça permet d'échanger beaucoup, parce qu'en fait, moi, j'essaye d'avoir au maximum une approche tolérante des autres.
Oui.
Et donc, j'invite le maximum à discuter, surtout quand c'est des proches ou des personnes dans mon environnement physique, hors réseaux sociaux, où là, du coup, ça permet des belles rencontres aussi et de discuter. Donc voilà, oui, tous ces choix, effectivement, ils interrogent. Mais c'est cool parce que ça permet de discuter aussi, quoi.
C'est comme si, en fait, les gens pensaient que un homme, en fait, ne pouvait pas s'occuper correctement de son enfant. C'est tout de même assez incroyable. Ça raconte quelque chose de notre société, hein. Et là, je rejoins pour le coup les féministes qui essaient de faire évoluer. Alors bon, je suis pas un super fan des extrémistes féministes, mais je suis bien évidemment pour à tout niveau dans notre société percer le plafond de verre et faire en sorte que la femme devienne l'égale de l'homme. Mais ça raconte quelque chose de notre société, de penser que qu'il y a que les femmes qui peuvent s'occuper des enfants. Qu'en pensez-vous, Samuel ?
Mais ça raconte quelque chose effectivement de notre société. Ça raconte que notre société est fondée sur des normes patriarcales qui sont en vigueur depuis des siècles et des siècles, et qu'il serait temps de re-questionner et d'abolir pour que enfin effectivement puisse y avoir une vraie égalité entre les femmes et les hommes. Je crois pas que ce soit autre chose que ça que revendiquent les cercles féministes de façon globale, mais de toute façon je pense que effectivement il faut complètement revoir notre façon de considérer l'homme, la femme et le genre en général. Et moi, je suis très content de pouvoir y participer à titre illustratif pour dire, voilà, en fait, juste un mec peut tout à fait prendre soin, en fait, parce qu'on a ce rapport-là, la masculinité, de l'autorité, la force, le travail, l'argent, le pouvoir, en fait, tout simplement. Il suffit de regarder la place de l'homme dans la société en général, dans n'importe quelle sphère, politique, médiatique, artistique, enfin voilà, n'importe quelle sphère, pour se rendre bien compte qu'il y a un déséquilibre encore aujourd'hui en France. Et donc, c'est nécessaire, je pense, de parler de ces sujets-là et de mettre en lumière des parcours justement différents.
Et en fait, vous continuez aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous vous occupez de votre fils ?
Bah, depuis qu'il est né, hein.
Oui, mais, non. Ah oui, depuis qu'il est né, non. D'accord, ok. Non, mais,
Je suis père au foyer.
Oui, pardon.
6 mois à peu près.
Pardon.
Mais là, aujourd'hui, j'ai une activité professionnelle à côté. Je travaille de chez moi.
D'accord.
Je travaille de chez moi, mais j'ai une activité professionnelle qui est légère par rapport à une activité salariée, genre 8h, 18h. Donc ça me permet d'être plus présent effectivement pour la logistique à la fois de la maison et de m'occuper de plus de mon fils. Ouais. Depuis ces 6 mois.
Est-ce que les regards ont changé ? Est-ce que les gens comprennent un peu mieux votre démarche et ce que vous faites ?
Moi j'ai cette impression-là, mais c'est le problème, c'est que vu que je reste quand même dans une forme d'environnement fermé, enfin à un moment on peut pas savoir la vie de n'importe quelle personne sur Terre ni en France, donc c'est compliqué, parce que moi j'ai l'impression que ça évolue, parce que autour de moi ça, effectivement ça évolue, et je suis dans des milieux où on a cette idée là que on pourrait changer de façon de voir, mais moi je pense que globalement en France, et il suffit de voir ce qui se passe autour des sujets de parentalité, des sujets d'éducation, pour se rendre bien compte qu'on est encore très très loin de certains de nos voisins européens sur la question par exemple de la non-violence, ou même sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur les congés parentaux et paternité-maternité, quoi. On est encore très très loin. Donc, on avance à pas... C'est feutré, quoi.
Oui, pour moi. Oui, oui. Votre femme, elle, en fait, est une épouse épanouie. Elle a la chance de travailler depuis le bac, d'abord seule, et puis à la tête d'une entreprise, et d'être passionnée par son activité. Est-ce que... Les revenus qu'on peut gagner facilitent ce type de choix, Samuel ?
Je pense que ce serait hypocrite de dire le contraire. C'est-à-dire que le choix de vraiment s'asseoir sur une partie du revenu d'un foyer, il faut que l'autre partie soit suffisante pour continuer à vivre, ou en tout cas vivre correctement. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la situation dans laquelle on est financièrement et économiquement parlant dans notre société, ce serait hypocrite de faire croire aux gens que tout le monde pourrait devenir parent au foyer demain et qu'il n'y aurait pas de problème pour le foyer. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui galèrent, il y a quand même beaucoup de gens qui font la queue dans les crous, dans les restos du cœur, n'importe où. Enfin, on est dans une situation compliquée, donc faut rappeler que c'est une exception quand même ce qu'on vit, c'est une chance. Et c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est un vrai privilège. Et c'est pour ça que je dis souvent, je dis pas à tout le monde qu'il faut absolument que le papa devienne père au foyer. Au contraire, je dis juste, voilà, sachez que cette option, elle existe. Et que si vous avez la capacité de pouvoir le faire et le privilège de pouvoir le faire, réfléchissez-y, parce que ça peut être intéressant. Et puis après, dans le bouquin, justement, je parle de plein d'autres choses qui peuvent, pour le coup, s'appliquer et être mises en place dans tous les foyers, et ça, n'importe quelle situation.
Vos parents vous ont transmis l'idée que la seule différence entre un homme et une femme, c'est celle qu'on instaure, racontez-vous dans votre bouquin, et je trouve que c'est une excellente pensée et idée très clairement exposée comme ça, que la seule différence, c'est celle qu'on instaure, et ils ont bien eu raison. Vous évoquez...
Ouais, je m'en dirais, ça va faire plaisir.
Mais oui, parce que c'est très simple, et c'est une manière très claire et très forte d'expliquer les choses aux enfants, par exemple. Voilà, la seule différence, c'est celle qu'on instaure. C'est très, très, très fort, je trouve. Vous évoquez votre virilité. Vous soulignez ne pas croire que vous ayez un problème avec votre virilité, mais je vais vous laisser réfléchir à votre réponse. On se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
Ça marche.
À tout de suite, Samuel.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Il est 23h passées de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter, chers amis. Nous sommes avec Samuel depuis le début de cette émission. Samuel, jeune papa de 27 ans, habitant à Montpellier, auteur du livre Père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie aux éditions Hachette Pratique. Samuel, que l'on peut retrouver aussi sur les réseaux sociaux, @SamuelCLT, tout attaché. C'est 200 000 abonnés qui vous suivent, Samuel, et qui sont intéressés par la virilité, en fait, le problème de la virilité que peut poser chez les hommes le fait de s'occuper de leurs enfants. C'est encore une des réflexions que vous avez pu avoir?
Oui, bien sûr. En fait, c'est une réflexion que j'ai pu avoir à plusieurs moments de ma vie. D'abord quand j'ai choisi de devenir père au foyer, ensuite quand j'ai commencé à vraiment partager mon quotidien de papa et de papa épanoui, et puis ensuite quand j'ai commencé à aborder des sujets un peu plus intimes, ou en tout cas considérés comme intimes, sur la virilité, sur la masculinité, puis quand j'ai raconté mon parcours de vasectomie, puisqu'on voulait plus d'enfants avec mon épouse, du coup j'ai fait une vasectomie, et ça a encore remis un peu sur le devant de la scène cette question-là de la masculinité, de la virilité. Donc c'est un sujet qui est très touchy, on le sait, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, même ma génération, même les jeunes générations ont beaucoup de mal à parler de ça, à parler de la masculinité, de la virilité. Ils sont encore pétris de stéréotypes, de la force, de l'autorité, de la puissance, en fait, et c'est très compliqué d'en sortir. Et du coup, dès qu'on a des petits chemins différents, ça pose problème et ça fait réagir, et voilà, des fois c'est pas hyper hyper agréable à vivre, d'avoir des retours de gens forcément bienveillants, mais quand même ça permet de faire réfléchir et de faire évoluer un peu les mentalités. Au moins, moi je me dis, une petite goutte d'eau dans l'océan, c'est toujours ça, hein.
Est-ce que vous ne trouvez pas que les réseaux sociaux ont amené, en fait, la possibilité à n'importe quel abruti de prendre part au débat?
Si, bien sûr.
D'accord. Okay.
Si, si. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est comme tout. Ça a amené aussi la potentialité à n'importe quel être très brillant de mettre en lumière son travail, alors que ça n'a jamais été le cas avant. Et voilà.
Ça a aussi permis, vous qui m'écoutez tous les soirs. C'est bien évidemment, ça a permis de faire émerger tout un tas de talents, hein, chers amis.
C'est ça.
Bon, c'est vrai que dans cette libre antenne, on évoque souvent les méfaits que peuvent provoquer ces réseaux sociaux. Et malheureusement, cet espace de parole est souvent plus le réceptacle de choses négatives qui sont arrivées. Mais les réseaux sociaux sont aussi aujourd'hui une nouvelle économie, la possibilité pour des jeunes talents qui n'auraient jamais eu la possibilité, ne serait-ce que parce qu'on est dans un pays qui marche beaucoup au réseau, qui marche beaucoup au lobbyisme et puis à la magouille, en fait, hein. C'est un pays assez corrompu. Les réseaux sociaux ont permis à des talents bruts d'éclore, et ça c'est plutôt quelque chose de bien, parce qu'on ne peut pas trop tricher. Et donc du coup, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis bien évidemment, comme vous le dites, Samuel, il y a tout un tas de choses très intéressantes que des personnes brillantes mettent en lumière sur les réseaux sociaux. Donc loin de moi, hein, l'idée de les critiquer tout le temps. Par contre, méfiez-vous bien évidemment de tout ce qui s'y raconte, puisque ça n'est pas toujours parole d'évangile, en fait.
Tout à fait, c'est ça, vous soulevez vraiment les points importants. C'est évidemment, ça fait briller beaucoup de personnes et ça permet de faire éclore des talents incroyables, et ça, c'est une grande chance qu'on a. Mais par contre, effectivement, il y a un vrai travail à la fois de régulation sur tout ce qui est cyberharcèlement, harcèlement, insultes en ligne, et sur les fake news et la véracité de l'information transmise. Et ça, c'est vraiment les trois points qui sont pour moi aujourd'hui les plus importants. Ouais, tout à fait.
Vous avez en tout cas la possibilité, vous aussi, de vous attaquer en tant qu'influenceur, créateur de contenu, à tous ces combats, hein, pour votre enfant, bien évidemment. C'est quelque chose que vous évoquez souvent, le harcèlement, toutes les choses auxquelles sont confrontés nos gosses.
Alors, bien sûr, après, sur ce qui est du harcèlement en ligne spécifiquement, mon fils, il a 6 ans, donc il n'est pas encore concerné.
Oui.
Ouais, donc c'est pas trop le cas, mais par contre, évidemment, du fait déjà de notre sensibilisation à mon épouse et à moi sur ces sujets-là, de par notre profession, enfin notre métier, et du fait que, en fait, on a fait des choix particuliers en termes d'éducation qui font qu'on est très vigilant sur la violence et sur comment on se traite les uns les autres, du coup, lui, il est forcément très sensibilisé au fait à la fois de, ben, évidemment, respecter lui-même les autres, le corps des autres. La gentillesse est quelque chose de très important pour nous et voilà, là encore tout à l'heure je me suis vu lui expliquer qu'une blague il faut que ça fasse rire les deux personnes, sinon c'est pas une blague, ça peut être de la méchanceté. Si toi ça te fait rire et que l'autre ça la fait pas rire, c'est que il y a quelque chose peut-être qui lui la gêne dans ce que t'as dit. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on travaille avec lui parce que c'est important. Et puis après à l'opposé, toujours qu'il soit assuré et qu'il soit certain que nous on soit prête à l'écouter en fait. Dans le sens où il se passe quoi que ce soit, tu te sens pas bien, quelqu'un te parle pas gentiment, quelqu'un a des gestes ou des mots qui sont pas ok avec toi, tu viens nous en parler et on sera toujours à ton écoute. Et ça, c'est important de maintenir ce lien-là, je pense aussi avec son enfant, à 6 ans, à 8 ans, à 15 ans, pour moi, toute la vie même. Mais bon, dans la plus tendre enfance, que ça se connecte tout de suite, c'est encore plus intéressant, je pense, afin que lui, bah, il soit sécurisé au cas où il a besoin de demander de l'aide, de demander du soutien, parce que souvent, le harcèlement... les victimes sont très vite isolées, en fait, et sont très vite seules face à la haine, et c'est très compliqué. Donc oui, bien sûr, on en parle, mais avec des mots d'un enfant de 6 ans.
Dernière question. Je suppose que votre fils et vous êtes très proches, évidemment, puisque vous occupez de lui à la maison. Vous vous dites 10 fois par jour, je t'aime. Donc c'est tout beau, tout mignon, j'adore. Mais est-ce que vous apprenez, vous aussi, en élevant ce petit bout, à être un homme différent, capable d'exprimer et de comprendre non seulement les sentiments de votre fils, mais vous aussi, en fait, en élevant votre fils, est-ce que vous ne revenez pas à quelque chose de très pur qui fait de vous un homme différent que vous ne l'auriez été si vous aviez continué ce que vous aviez entrepris, c'est-à-dire de vouloir être médecin?
Bah écoutez, c'est vraiment, vous venez de mieux résumer que moi mon bouquin, c'est parfait.
Bah écoutez, merci. Non, mais
c'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, le fait d'avoir élevé mon fils dans ce chemin-là, avec ces choix-là, ça m'a fait complètement en fait... changer sur ma façon d'être, moi, et je sais que ça va parler à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sûrement qui nous écoutent, mais enfin je veux dire, moi, quand je dis 10 fois je t'aime à mon fils tous les jours, c'est parce que moi, mon père, je l'ai entendu me dire je t'aime une paire de fois dans ma vie.
Oui.
Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à pas avoir vécu avec des modèles d'expression des émotions très clairs. La colère, bon, globalement, on a bien compris comment ça se passait. La peur, ça va. L'amour, c'est quand même beaucoup plus difficile d'exprimer quand on est en joie, d'exprimer quand on est heureux. C'est pas forcément le plus simple. Et puis, tout simplement, de savoir juste identifier ses propres émotions. Et moi, c'est ça qui a été incroyable pour moi. C'est qu'en fait, quand j'ai essayé de faire comprendre à mon fils qu'il y avait différentes émotions et qu'on pouvait être capable de les identifier pour mieux réagir et mieux les gérer... Bah en fait, je me suis appris à moi-même aussi, parce que moi, personne m'a appris ça. Bien et sûr. Je suis pas sûr qu'on soit beaucoup à avoir appris ça, et ce qui fait qu'on a beaucoup de mal, en tant qu'adulte ensuite, à avoir des rapports sociaux qui sont équilibrés, qui sont pas basés sur le rapport de domination, qui sont pas basés sur le rapport de peur, et on a beaucoup de mal à avoir juste des rapports sains et équilibrés, à la fois avec nous-mêmes et avec les autres. Donc en fait, quand moi j'apprends tout ça à mon fils, je me rends compte que je me l'apprends à moi-même parce que je ne l'ai jamais appris. Et c'est une grande chance. Et c'est ce que vraiment le cœur de ce que je dis sur les réseaux, de ce que je raconte au quotidien, c'est ça. C'est vraiment de dire, en fait, quand on fait ça avec ses enfants, on devient nous-mêmes une autre personne. Et franchement, une personne bien plus épanouie, honnêtement. Hein. Donc, ouais, c'est une grande chance. En fait, c'est une grande chance que je l'ai avec moi pour vivre tout ça, mon fils.
Ça fait de vous donc.
C'est une grande chance.
Ça fait de vous donc un homme différent que vous auriez été.
Ouais, ça a changé. Ça a changé ma vie, évidemment, mais ça, c'est un peu facile à dire. Mais ça m'a vraiment aidé à être à l'écoute des autres, à repérer les émotions qui me traversent quand on me dit quelque chose que je suis vraiment en colère. Oui. Maintenant, je suis à peu près capable de dire, écoute, là, ce que tu me dis, ça me met vraiment en colère. Donc plutôt de te répondre tout de suite, je vais aller respirer, boire un verre d'eau, fumer une clope, ce que vous voulez hein, après. Mais voilà, je vais aller prendre un temps pour gérer cette colère avant de te répondre. Plutôt que de mettre mon poing dans la gueule de quelqu'un, comme on aurait pu le faire il y a 10 ans, 15 ans. Donc c'est toujours c'est toujours la même question. C'est à quel point on est capable de gérer ses émotions et d'avancer dans le dialogue avec les autres. Et je pense que le fait de l'apprendre à un enfant et de soi-même avoir fait le choix d'abandonner, ou en tout cas de tenter d'abandonner le maximum la violence dans l'éducation, ben on se rend compte qu'en fait, on a besoin de la violence nulle part, dans aucun rapport avec les autres. Et ça, c'est une grande chance de s'en rendre compte, parce qu'en fait, bah, globalement, on passe tous notre vie à être violent avec les autres ou avec soi-même. Donc, je suis assez heureux d'avoir trouvé ça, ouais.
C'est marrant, vous voyez les réseaux sociaux, là. On a deux SMS qui montrent combien, voilà, sur n'importe quelle chose qui se raconte, les gens, voilà, balancent leurs idées. Alors, il y a Bernadette qui dit pour Samuel, en étant plus impliqué, les pères favorisent le développement des enfants physiques et psychiques. Au Japon, le papa a 12 mois de congé parental. Bravo à ce papa, Samuel, vous dit Bernadette.
Et puis
nous avons Charles, qui est quelqu'un qui est très fidèle à la Libre Antenne, qui nous dit « La femme sera l'égale de l'homme quand elle ira dans les tranchées ».
Ouais.
Donc voilà, vous voyez comme les choses peuvent voilà, s'écarter comme ça, comme on peut avoir des.
En l'occurrence, il y a une personne qui est bienveillante et une autre qui est carrément odieuse. Enfin, il faut qu'on soit clair sur la.
Complètement.
C'est pas une opinion.
Complètement. Alors, je trouve que Charles.
Un propos sexiste. Oui.
Charles.
Complètement odieux. Hein,
Charles.
Voilà,
Charles. Charles est souvent odieux. Et puis parfois.
Charles est un homme.
Parfois, il a de bonnes réflexions, mais il a souvent. Souvent fait des réflexions plutôt intelligentes, mais là, ce soir, c'est un zéro pointé, complètement.
C'est un zéro pointé, et puis on pourrait rappeler à Charles que probablement, comme lui, et comme moi, et comme beaucoup d'autres, on aurait essayé de se mettre des balles dans les bras ou dans les mains pour pas aller dans les tranchées non plus,
voilà.
Parce
et puis,
qu'on n'avait pas envie d'y crever.
On va surtout rappeler à Charles que dans la résistance française, puisque je pense que ce monsieur n'est pas tout jeune, il y a eu de grands noms et une participation des femmes à cette résistance et à cette libération de notre beau pays. Donc, je le renvoie à quelques bouquins d'histoire qui lui montreront que les femmes.
N'importe quel bouquin, je pense, pour Charles, ce serait pas mal.
Voilà. Et puis, je terminerai par une citation que moi, j'ai écrite dans mon dernier bouquin. C'est qu'une société qui ne respecte pas les femmes et qui ne met pas les femmes au cœur de toutes les problématiques au même niveau que les hommes est une société malade, une société qui boite. Et je pense que tant que tout le monde n'aura pas compris ça, on aura du mal à avancer convenablement. Mais la route est longue, mon cher, et les réseaux sociaux sont là pour aussi faire quelque chose pour faire évoluer le débat. Il peut aussi un peu le brouiller, le débat, bien évidemment, mais bon, c'est comme ça.
Vaut mieux qu'on évolue beaucoup et qu'on brouille un peu que l'inverse.
Exactement, exactement. En tout cas, Samuel, je vous remercie mille fois d'avoir pris de votre temps pour nous ce soir. Je rappelle que votre bouquin « Père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie » aux éditions Hachette Pratique est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux où vous êtes suivi par 200 000 abonnés, @SamuelCLT. Et puis pour info, votre femme, Léa, est une célèbre créatrice de contenu et entrepreneuse qui s'est fait connaître pour sa chaîne YouTube. Je ne suis pas jolie. @je ne suis pas jolie. Ça consiste en quoi, ça, sa chaîne, en fait, à Léa?
Alors, la chaîne, elle a l'âge de notre couple, c'est-à-dire 13, bientôt 14 ans. Donc, elle est bien ancienne et elle n'a pas du tout démarré au même stade que maintenant. Aujourd'hui, mon épouse, elle propose différentes choses autour de, à la fois, l'empowerment féminin et l'entrepreneuriat féminin. Aussi des produits pour la maison qui sont en vente sur son site qui s'appelle Cracotte.
Oui.
Et puis du contenu autour de justement son quotidien de femme entrepreneuse, de maman qui jongle avec tout ça, et elle raconte ça sur sa chaîne YouTube. Donc c'est un peu tout ce que vous pouvez retrouver. Voilà.
Très bien. Eh bien, pour ceux qui ont besoin d'en connaître un peu plus sur Samuel ou sur Léa, bien évidemment, vous réécouterez ce podcast. Il y a toutes les coordonnées de ces jeunes gens. Merci, et puis une bise au fiston, Samuel.
Oui, là, il dort.
Comment il s'appelle?
Gaspard,
super prénom. Eh ben super.
Ouais,
une bise au petit Gaspard qui est dans ses doux rêves, alors où nous échangeons. Merci à vous, et puis bon vent, mon cher ami.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.